Bonjour et bienvenue dans Quartier Direct, l'émission de Mediapart et du Bon du Blog. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux entreprises et aux quartiers populaires. Alors pour certains, entreprendre, ça veut dire s'émanciper, créer son projet de A à Z. Pour d'autres, c'est une nécessité, celle d'accéder à un marché de l'emploi qui discrimine parce qu'on n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'on n'a pas le bon code postal ou parce que l'on porte le voile. Mais alors que le cliché des habitants des quartiers populaires qui seraient assistés se développe, les entrepreneurs et entrepreneuses des quartiers se multiplient et déjouent les idées reçues. Dans un rapport de 2019, l'Observatoire national de la politique de la ville montrait déjà en 2017 une augmentation de 10% par rapport à 2016 des ouvertures des entreprises dans les quartiers prioritaires de la ville. Et si les meilleurs représentants de la Startup Nation étaient issus des quartiers populaires ? À cette question, on va y répondre avec deux invités. Ayette Mazouza, vous êtes responsable impact et plaidoyer chez Positive Planet France, qui agit dans les quartiers pour promouvoir l'entrepreneuriat, et vous êtes spécialisée dans les innovations sociales en faveur de l'inclusion économique. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, Hicham Benaïssa, vous êtes sociologue, praticien, rattaché au laboratoire du GRSL, et vous êtes notamment consultant auprès d'entreprises sur les questions de discrimination. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Ayette Mazouza, ma première question, vous êtes au contact tous les jours d'entrepreneurs ou de personnes qui vont être entrepreneurs. Ma première question, c'est qu'est-ce qui les séduit dans les quartiers populaires ? Qu'est-ce qui séduit à l'idée d'entreprendre ?
Je dirais qu'il y a plusieurs raisons. La première serait un petit peu celle qui est la plus évidente, en se disant, on essaie de contourner certaines... défaillance parfois de processus de recrutement dans l'emploi salarié et on essaie de créer sa propre activité. Sauf qu'on a un rapport qui est sorti en juin 2020 à l'initiative de BPI France, JP Morgan et Terra Nova, qui démonte un certain nombre de clichés, notamment à l'égard des entrepreneurs dans les quartiers, parce qu'on est, on a tendance à se dire, ils trouvent pas d'emploi, donc ils vont entreprendre. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. Il y a un vrai désir d'émancipation économique dans les quartiers. Il y a un vrai désir de tirer une fierté. D'ailleurs, nous, on a mené une étude d'impact en 2020. Et on s'est rendu compte que 93% de nos porteurs de projets se disent fiers de ce qu'ils ont réalisé. Je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'importance de la reconnaissance des capacités des individus à prendre la main sur leur propre destin dans les quartiers populaires. Donc ce que je dirais, c'est qu'ils sont séduits par, bien évidemment, et ça c'est documenté, on a la moitié de nos entrepreneurs qui veulent accéder à une rémunération supérieure à ce qu'ils peuvent avoir dans l'emploi salarié, parce qu'on est quand même beaucoup sur des emplois précaires, même pour les femmes, et surtout pour les femmes, je dirais. On a beaucoup de personnes qui entreprennent parce qu'elles veulent être leur propre patron, elles veulent décider de leur rythme, elles veulent parfois agencer cette entreprise par rapport à leur situation personnelle. On a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, on a des personnes en situation de handicap, on a des femmes qui ont décidé de porter le voile et qui ne trouvent pas de moyens de s'insérer dans l'emploi salarié ou dans certaines entreprises qui font le choix qu'elles ont. Et en tous les cas, voilà, c'est une façon aussi de vivre en accord avec ses valeurs, avec son rythme, avec ses situations professionnelles et personnelles. Je dis professionnelles, pourquoi ? Parce qu'on a tendance aussi à penser que les entrepreneurs, ils ne tirent leurs sources de revenus que de leur entreprise. Et en fait, on se rend compte que nous, en tout cas par rapport à nos chiffres, on a beaucoup d'entre eux qui ont des emplois déjà salariés parfois. Ils ont des CDI à temps partiel, ou en tout cas, ils ont une situation de relative précarité, et encore plus pour les femmes dans les quartiers. Et j'attire l'attention sur la question des femmes dans les quartiers. Pourquoi ? Parce que faut pas oublier qu'il faut contextualiser les choses. Dans les quartiers populaires, on a deux fois plus de foyers monoparentaux, dont à 88%, ces familles sont gérées par des femmes. Donc quand vous avez à gérer une famille, en même temps à travailler, etc., l'entrepreneuriat peut être une source complémentaire de revenus. Donc voilà, il y a tout un panel de raisons.
Hicham Benaïssa, vous travaillez auprès de nombreuses entreprises. Comment est-ce que vous analysez le fait qu'en France, on puisse se dire « je ne trouve pas de travail » dans le marché de l'emploi classique, dans les grandes entreprises. Donc, je vais créer ma boîte un peu par défaut. Comment est-ce que vous l'analysez ?
Alors, d'abord, je commencerai par dire que moi, j'ai fait mon travail de recherche sur les entrepreneurs issus des quartiers au début des années 2009-2010. Donc, je me suis intéressé au parcours de ce type de profil. J'en ai fait ma thèse pour essayer de comprendre précisément quelles étaient les logiques derrière lesquelles ces entrepreneurs se ressourçaient. La première chose, moi, que je dirais pour compléter, c'est que, et ça, je l'ai vu, je m'en suis aperçu très concrètement, c'est qu'il y a une vraie culture de la réussite. Contrairement à ce qu'on dit. D'ailleurs, l'enquête de Tiberge, Brouard et Tiberge, qui s'appelle Français comme les autres, l'avait déjà, en 2006, je crois, l'avait déjà noté. Il y a une vraie culture de la réussite. Il se distingue par une très forte détermination dans la volonté de s'en sortir, de vouloir s'en sortir, sortir du précariat, etc. Donc, contrairement à toutes les idées reçues qu'on a des personnes issues des quartiers, il y a une vraie volonté de réussite. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Rappeler, hein, parce que c'est... Moi, j'ai été vraiment très frappé par ça. Après, oui, la situation du marché économique et social, elle est ce qu'elle est. Et on ne va pas se mentir. Maintenant, on a des chiffres qui sont accablants, en réalité. Hein, quand on cumule le fait d'être un jeune issu de l'immigration et issu des quartiers populaires avec un faible capital culturel ou un capital culturel moyen, disons bac plus 2, ce qui est quand même... Voilà, ce qui est quand même la moyenne du niveau de diplôme général dans les quartiers populaires. Vous avez 10 fois moins de chances d'avoir un emploi. Donc l'entrepreneuriat est souvent effectivement une porte de secours pour beaucoup de ces personnes issues des quartiers.
Oui. Vous parliez des profils des entrepreneurs. Hayat, quelles sont les ressources, sans forcément essentialiser chaque entrepreneur de quartier populaire, mais quelles sont les ressources spécifiques que vous remarquez au quotidien chez ces entrepreneurs-là ?
Alors, je ne sais pas si elles sont spécifiques. En tous les cas, je rejoins Hicham Benaïssa sur le fait que la détermination est clé. Et d'ailleurs, même dans l'étude que j'ai précédemment évoquée, donc de BPI qui est sortie en juin, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de freins, mais il y a aussi des forces, et notamment effectivement la détermination, la résilience. Alors je sais qu'on sort ce mot un petit peu à gogo ces derniers temps, mais il y a une vraie résilience, c'est-à-dire la capacité à trouver des solutions, retomber sur ses pattes dans n'importe quelle situation. Il y a aussi une solidarité, c'est ce qui est évoqué notamment dans cette étude, une solidarité entre les individus au sein du quartier. Il faut savoir qu'il y a dans les quartiers populaires 2 fois moins d'établissements, c'est-à-dire 2 fois moins d'entreprises. Le taux de création est 2 fois moindre que dans le reste du territoire français. Pour autant, le taux de pérennité, c'est-à-dire la survie à 3 ans des entreprises, elle est supérieure.
Quasiment.
Supérieure.
Ah, supérieure.
C'est-à-dire qu'on a un taux au niveau national qui est de 74%. Alors, c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même, on penserait pas à ça spontanément. Dans les quartiers, on est à 77%.
D'accord.
Mais ils sont moins accompagnés que les autres. En tous les cas, même ce décalage, même s'il n'est pas très significatif, du fait d'un certain nombre de freins mécaniques, faut rappeler les chiffres hein, quand même. Dans les quartiers populaires, on a un taux de chômage qui est 2,7 fois supérieur à la moyenne nationale.
Oui,
on a un taux de pauvreté qui est 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Sur la question des femmes, c'est pire. Et donc, du coup, on supposerait qu'il y aurait justement des mécanismes d'accompagnement qui pourraient rectifier ou en tout cas favoriser davantage la lutte contre ces freins. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, on a d'un côté des entrepreneurs qui essaient, qui se démènent. Nous, on le voit, ils se démènent, ils sont passionnés. Mais à un moment donné, il y a des barrières qu'on ne peut pas soulever. Et dans les barrières, on a déjà un déficit de culture entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de modèles d'identification autour de soi. Parce qu'on a un phénomène, je pense que Hicham en parlera mieux que moi, on a un phénomène où des gens qui entreprennent, ils sortent des quartiers. Ce qui peut parfois se comprendre, parce qu'à un moment donné, quand vous voulez faire du business ou quand vous voulez, même sans entreprendre votre vie, vous êtes diplômé, vous voulez travailler, la plupart des entreprises, elles ne sont pas dans les quartiers. Donc il y a ce sujet-là. Il y a un manque de lisibilité de l'offre, d'accompagnement et de financement. Il y a, quand je disais, c'est-à-dire qu'il y a une multitude d'exemples, hein. Il y a Positive Planète, mais il y a Initiative France, il y a France Active, il y a BGE, il y a Les Déterminés, il y a plein d'acteurs. Et pour autant, moi, il n'y a pas longtemps, il y a un ancien camarade de mon lycée qui a découvert le monde de l'accompagnement parce qu'il a regardé un webinaire que j'avais organisé. Alors que pourtant, il est diplômé, il a fait l'armée, et il essaie de lancer son propre business, mais il m'a dit, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas à quelle porte toquer. Ensuite, il y a une certaine méconnaissance à laquelle s'ajoute une méfiance vis-à-vis de ces structures, et notamment des institutions financières, bancaires. Quand on parle de freins des entrepreneurs dans les quartiers, il y a, tout à l'heure, je parlais de force en faisant référence à la détermination, à la solidarité, à la connaissance du marché local. Mais paradoxalement, ces forces peuvent se transformer en faiblesse quand il s'agit d'exporter votre business en dehors des quartiers. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que les entrepreneurs dans les quartiers, leurs entreprises sont ultra locales. Alors il y a le numérique qui, depuis quelques temps, permet de justement lever les barrières de cette ultra-localité, c'est-à-dire qu'on peut favoriser l'import-export, on peut finalement, via des plateformes e-commerce, je parle de commerce beaucoup parce qu'en termes de secteur d'activité, les entrepreneurs, ils sont sur trois secteurs principalement. En tout cas, nous, c'est les chiffres qui en ressortent et qui sont globalement assez similaires à ceux de la BPI. Un, service à la personne et aux entreprises. Deux, commerce. Et trois, artisanat. Alors, vous me direz pourquoi ? Parce qu'il y a, pour un certain nombre de ces business dans ces trois catégories, il n'y a pas besoin forcément de diplôme, d'être très diplômé. Demain, vous voulez monter un restaurant, vous n'avez pas besoin d'être diplômé pour ouvrir un restaurant. Après, ça va générer d'autres problématiques. Je reviens sur la liste des barrières. Il y a un manque aussi de formation. Hein. On va pas se voiler la face. Faire une étude de marché, un business plan, élaborer une stratégie commerciale, une stratégie de communication digitale. Parfois, faire des pitchs. Tout le monde ne sait pas faire des pitchs pour faire une levée de fonds. C'est des trucs qui sont très très grande école de commerce, en vrai. On va dire les choses.
C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la spécificité du métier, il y a des fonctions de gestion.
Absolument.
Des fonctions de purement business, en fait.
Absolument.
Qui ne sont pas forcément maîtrisées et qui sont...
C'est des compétences. À un moment, vous pouvez avoir toute l'énergie que vous voulez, toute la motivation. Si vous n'avez pas les compétences, ça va être très difficile. Vous pourrez créer, mais après, votre taux de survie sera... en tout cas, votre entreprise sera... plus fragile que d'autres chefs d'entreprise qui auront eu ces compétences-là.
Hicham Benaïssa, on parlait des difficultés justement dans la surreprésentation notamment des entreprises. On a beaucoup d'entreprises qui sont dans le BTP, beaucoup dans le commerce de détail. Moi, je le vois un petit peu comme un espèce de plafond de verre qui est peut-être lié aussi au fait qu'on a moins à investir aussi au départ. Est-ce que vous, en tant que sociologue, vous voyez ce plafond de verre et est-ce que vous avez l'impression que les entrepreneurs en sont conscients?
Oui, alors tout à fait. Déjà, c'est pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit et pour répondre à votre question. Moi, lorsque j'ai fait mon enquête, j'ai fait aussi une enquête quantitative. Entre des entrepreneurs issus des quartiers et les entrepreneurs non issus des quartiers. Et j'ai essayé de comparer les chiffres. Le critère discriminant, c'est-à-dire la variable vraiment significative qui les séparait le plus, c'était le fait que les entrepreneurs issus des quartiers étaient originaires de milieux d'ouvriers, alors que les entrepreneurs non issus des quartiers étaient originaires de milieux sociaux, plutôt cadres, voire chefs d'entreprise. Bon. Ce qui veut dire surtout que les entrepreneurs issus des quartiers, c'est un entrepreneuriat de première main. C'est-à-dire c'est un entrepreneuriat en train de se faire, hein, qui n'a pas la culture entrepreneuriale. Or, les chefs d'entreprise lambda, classique, lui a reçu dans son héritage social, c'est pas que une formation, hein, être entrepreneur. Hein. C'est ce qu'en sociologie on appelle un habitus. C'est une manière d'être, une relation aux autres, savoir parler, savoir se présenter, aller à la banque, savoir monter un dossier, avoir les codes, ce type de codes sociaux-là, qui manquent cruellement aux entrepreneurs sur des quartiers pour des raisons sociologiques, hein, ce qui n'est pas lié à leur spécificité quelconque, c'est des questions sociologiques. Ils sont issus de leur milieu, donc forcément, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas été acculturés à cet univers social et culturel. Or, le chef d'entreprise lambda, par le fait même d'avoir reçu, d'avoir eu les conseils de papa et de maman, oui, c'est bien, fais telle formation, ou je sais pas, moi, tiens, un petit pécule pour t'aider pour monter ta boîte, ou grand-père ou la grand-mère, tiens, je connais l'assistant de la banque du coin, va le voir de ma part, etc., il va t'aider à monter le dossier. Ce type de choses invisibles, en réalité, hein, qu'on voit pas, qui a l'air de rien, mais qui favorise, mais à des échelles incroyables, en réalité, le taux de réussite ou le taux d'échec. Voilà. Et donc, oui, c'est un entrepreneuriat en train de se faire, donc il balbutie, il y a une très forte détermination qui n'est pas assez bien suffisamment structurée, suffisamment canalisée, suffisamment encadrée. Bon, on sent qu'il y a, voilà, il y a de l'envie, etc. Et on voit bien. D'ailleurs, il y a des chiffres qui sont très parlants, je crois les avoir ici, sur les caractéristiques personnelles. On a essayé de voir ce qui marche et ce qui marche pas dans les profils. On voit bien que, en gros, on pourrait dire, il y a les conditions subjectives et les conditions objectives. Les conditions subjectives, c'est celles que je viens de dire. C'est-à-dire, en gros, sont un héritage social et culturel, avoir de tels milieux, etc. Mais c'est aussi, ça peut être, donc, le niveau de diplôme. Le niveau de diplôme, c'est quand même des critères aussi. Hein. En dessous le bac, c'est pas la même chose qu'avoir bac plus 2. Mmh. Voilà. On le voit. Déjà, dans les chiffres, on voit que c'est pas la même chose. Bon, dans le rapport à la gestion, par exemple, c'est des choses qui sont tout à fait importantes. Avoir le diplôme, avoir une certaine expérience. On voit que ceux qui réussissent un peu mieux que les autres, ce sont ceux qui ont déjà créé des entreprises. Mmh. Par exemple, on a fermé une. Puis j'ai souvenir plein d'entrepreneurs qui étaient à sa 5e boîte. Hein? Et puis, mais la 5e boîte, elle marche cette fois-ci. Parce qu'il a accumulé de l'expérience, parce que maintenant il sait ce qu'il refera pas, etc. Donc et puis il y a les conditions objectives, et là c'est clair. Plus le capital est faible, le capital de départ, je veux dire, voilà, par exemple, l'investissement, investir 2000 euros dans sa boîte ou investir 20 000 euros, ça change tout. Voilà. Bon. Donc ça, c'est des choses qui sont très claires et qui séparent, si vous voulez, des groupes d'individus, mais pas, encore une fois, liées à leurs caractéristiques culturelles ou je sais pas quoi. Elle est liée à des conditions sociales tout à fait concrètes.
On pense souvent à la création, mais il y a un vrai sujet de post-création. Et comment survit l'entreprise dans les 3 à 5 années qui suivent la création. Et ce qui ressort beaucoup, nous, de nos études au niveau de Positive Planet, mais même au niveau, je pense, au niveau national, et d'ailleurs même dans l'étude BPI notamment, c'est qu'on a des entrepreneurs qui nous disent j'ai pas de réseau, en fait. Au-delà, je veux dire, du réseau, de l'environnement, on va dire, familial ou amical, du quartier, etc. Au moment de créer, voilà, il y a plein de réseaux, en fait, de chefs d'entreprise au niveau local,
oui.
Régional, avec parfois des cotisations, il y a des dîners qui se font, quand ils peuvent se faire.
En dehors du Covid.
Voilà, il nous dit, j'ai pas de réseau, et en fait, on sait qu'il est aussi capital le réseau. Pourquoi? Oui. Parce que souvent c'est des chefs d'entreprise qui se connaissent et qui vont tout ce qui est achat, on va se les faire entre nous. S'il y a des marchés, on va se coordonner entre nous pour les adresser, etc. Mmh. Et donc il y a un vrai sujet aussi de mise en réseau. D'ailleurs, par exemple, nous chez Positive Planet, quand on s'en est rendu compte avec notre première étude en 2018, on a décidé de créer des clubs, nous, ce qu'on appelle des clubs de positiveurs. En fait, c'est tout simple, hein, mais pourtant, c'est nécessaire. C'est des clubs où on va fédérer les jeunes créateurs et des créateurs un peu plus expérimentés pour pouvoir favoriser, en fait, l'apprentissage par pair, monter en compétences, avoir aussi des shoots de motivation, parce que les entrepreneurs sont très isolés, hein, ils se sentent très seuls. Nous, on est beaucoup sur des travailleurs indépendants, beaucoup sur des auto-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs. On n'est pas encore beaucoup sur les grosses PME ou les ETI. Et donc, du coup, il y a un vrai sujet de mieux les accompagner, faire en sorte qu'ils se sentent moins seuls, parce que tout dépend aussi, beaucoup du mental et du travail en réseau.
Hicham Benaïssa, vous parliez tout à l'heure des facteurs sociologiques. Est-ce que le fait que On est dans un pays, en comparaison par exemple avec d'autres pays comme les États-Unis, où les notions d'échec, les notions de répétition sont plutôt valorisées. Est-ce que les habitants des quartiers populaires, en plus peut-être d'avoir une, peut-être avoir à gérer peut-être une défiance parentale au fait de créer son entreprise, de pas avoir un revenu assuré par rapport au salariat, est-ce que c'est quelque chose aussi un espèce de combat à l'intérieur de la famille, mais aussi à l'intérieur de la culture du pays dans lequel on se trouve, que les entrepreneurs aussi combattent?
Combat, vous voulez dire le
cette... auquel ils font face, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément en France. Et j'ai l'impression, en tout cas, que le fait de rater peut-être sa première boîte ou de ne pas avoir trouvé la formule dès le début, c'est peut-être moins valorisé que dans d'autres pays.
Alors, il y a ça. Mais alors là, encore une fois, moi je tiens à souligner la spécificité de des entrepreneurs issus des quartiers populaires, parce que malgré tout, malgré la situation déjà très accablante, souvent dans laquelle ils vivent, ils font preuve d'une détermination incroyable, je le répète. Ils sont vraiment, dans les entretiens que j'ai pu faire, je trouve qu'ils se distinguent par leur force de caractère. Bon, voilà. Précisément pas. C'est pas à ce niveau-là que ça pêche. C'est pas. Moi, je pense qu'il y a vraiment justement. Il y avait un entrepreneur qui m'avait dit, vous savez, nous quand on est issu des quartiers populaires et en plus issu de l'immigration, on a une pression de la réussite. On est obligé de réussir. Il faut. Voilà. On est pressé par ça. Il faut qu'on fasse quelque chose de nos vies, etc. Donc ils se sentent animés comme ça. Le problème, c'est pas ça. C'est pas les aspirations et la détermination. Le problème, c'est l'accompagnement, c'est la formation, c'est les réseaux, c'est les financements, c'est la relation à la banque. C'est tout ça le problème, qu'il faut fluidifier, qu'il faut accompagner, C'est plus ça, moi, où je situerais le problème. Leur détermination, pas du tout. Moi, c'est plutôt la. Moi, je les vois plus effectivement en culture américaine. Le profil issu des quartiers populaires.
Avec juste peut-être une attention spécifique sur les femmes, notamment, parce que souvent on imagine le chef d'entreprise comme déjà étant un homme et qui est audacieux, qui fonce. Et en fait, c'est pas forcément le modèle que nous on a. Enfin. Nous, on a, faut rappeler, en termes de chiffres au niveau national, en France, la moyenne nationale hors quartier, mais incluant tout le monde, on est autour de 30% d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs eux. Nous, dans notre base de données, on a à peu près la moitié de femmes. 50%, exactement. Donc, on est nettement au-dessus de la moyenne nationale. Une des raisons, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui essaient de pallier un certain nombre de difficultés en entreprenant parce que c'est plus facile de gérer, sans rentrer dans les clichés, mais en pratique, elles gèrent encore plus.
Il y a la vie du foyer.
Voilà, la vie du foyer, les charges. Et donc, du coup, cette figure-là de l'entrepreneur, je pense qu'elle est à nuancer. Et du coup, le sujet de est-ce que le fait d'entreprendre, de mieux intégrer l'échec, de rebondir, etc. Est-ce que c'est un sujet? Je dirais qu'effectivement, par rapport à la réponse de Hicham, sur les hommes, c'est moins vrai que sur les femmes. Nous, on a des entrepreneurs, je pense à une il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui a lancé une marque de vêtements qui s'appelle Africanista. C'est des t-shirts qui ont été portés par Beyoncé, même si, elle a mis du temps avant d'arriver à cette réussite. Elle me disait que, au tout début, ses parents, et notamment son père, n'étaient pas du tout favorables, parce qu'elle a quitté un emploi salarié, elle est passée par une période de chômage. Parce qu'elle voulait croire en ses rêves et elle est donc d'origine mauritanienne, la fondatrice, et elle me disait que dans sa famille, dans sa culture, c'était une prise de risque démesurée pour une femme d'entreprendre. Et d'ailleurs, même dans l'étude BPI, on voit que la plupart des femmes, que les femmes sont beaucoup plus prudentes dans leur démarche entrepreneuriale. Elles vont demander moins d'argent. Elles vont, même dans leur business plan, elles vont mettre des objectifs qui sont nettement inférieurs à des hommes qui sont aussi dans les quartiers. Hein. Je parle vraiment là. Je parle que des quartiers. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je pense qu'il y a, un vrai sujet aussi de genre,
genre.
En plus du quartier. Quand on veut entreprendre, et c'est vraiment pas le même. Nous on le voit, hein, parce que tout à l'heure vous parliez de d'esprit. Enfin, dans le jargon, on parle souvent de mindset, parce qu'on aime bien justement utiliser des mots anglo-saxons, parce que c'est toujours tout de suite plus stylé d'entreprendre à l'anglo-saxonne. Mais le mindset d'un homme qui entreprend est pas le même qu'une femme, et ça c'est documenté, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la tech, que ce soit dans plein de domaines différents.
Alors évidemment. Parler d'entreprise et des quartiers populaires sans parler de politique, c'est être incomplet. On a vu beaucoup de dispositifs se multiplier au cours des dernières décennies, des zones franches, des aides au lancement d'entreprises. Ayat, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous avez l'impression que ces dispositifs-là, politiques, est-ce qu'ils changent les choses ?
Alors, je n'ai pas les chiffres pour pouvoir vous dire quel est l'impact de chaque mesure qui a été mise en place par les pouvoirs publics, je dirais, depuis une quinzaine d'années. En revanche, il y a un chiffre global, si on s'intéresse par exemple au taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment ceux de l'Observatoire national de la politique de la ville, qui indiquait un recul de 2 points du taux de chômage. Donc on était passé de, il me semble, voilà, 26,7% à 24,6% entre 2014 et 2018. Donc on peut se dire que c'est plutôt positif, mais il y a depuis 2018 eu un certain nombre de reculs. Je pense notamment par exemple à la suppression des emplois aidés qui était pourtant un véritable levier d'emploi pour les jeunes, mais aussi pour les structures associatives qui sont dans les quartiers, qui font de l'accompagnement justement et de la sensibilisation, par exemple à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on n'a pas, je n'ai pas à ma disposition les chiffres pour vous dire quelle est la situation, mais on peut légitimement se dire qu'au vu de la crise sanitaire qu'on traverse, et comme vous le savez, les résultats des impacts, qu'ils soient d'ailleurs positifs, mais j'en doute, et négatifs, on les aura que dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans. Et je pense que la tendance de fond sera pas forcément positive, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autant plus que, en tout cas pour les structures associatives, parce qu'il ne faut pas oublier que les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, très largement, sont associatives. On n'a pas que ce soit les gros réseaux France Active, Initiative France, BGE, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, et même Positive Planète, on est entre 50 et 80% sur de la subvention publique, subvention qui est amenée à baisser avec des appels à projets souvent, parce que, comme vous le savez, les associations répondent à des appels à projets de l'État. Des appels à projets qui très souvent viennent financer des projets innovants et pas suffisamment ce qu'on appelle nous des frais de fonctionnement, c'est-à-dire le run, c'est-à-dire les gens, en fait, faut les payer, quoi, les gens qui font de l'accompagnement, surtout que c'est une personne qui passe du temps avec une personne. C'est très compliqué, surtout dans les quartiers là où il y a un vrai sujet de confiance, d'instauration de confiance entre le conseiller et la personne. Nous, on a des conseillers. Par exemple, ils vont vous conseiller, Jalal, moi, je vais vous appeler, je vais dire je suis Positive Planète, la personne ne voudra pas parler avec moi. Elle ne veut parler qu'à son conseiller. Parce qu'il y a une vraie exactement. Donc, on ne peut pas démultiplier notre impact sans démultiplier le nombre de salariés. Or, on a des contraintes budgétaires avec une baisse de la subvention publique depuis une dizaine d'années, alors que les besoins sur le terrain se démultiplient et qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour financer les emplois. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur les chiffres du mouvement associatif, le nombre d'emplois dans les associations n'a pas évolué depuis une dizaine d'années, alors même que les besoins, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, ont augmenté.
Moi, je dirais que c'est... Moi, je serais quand même plus sévère sur la situation. Je pense que la situation est critique, les investissements sont très largement insuffisants, pas du tout à la hauteur des enjeux, les besoins sont énormes. Et je trouve que ce qui a été investi, alors évidemment, c'est des choses qui me bouffent, voilà, c'est très bien, mais c'est très largement insuffisant.
Moi, j'ai l'impression que, comme dans les médias, alors qu'on le voit, il y a des entrepreneurs, il y a de la volonté, il y a des créations de poste, etc. Les entrepreneurs sont invisibilisés. Et on en parlait quand on préparait l'émission. Est-ce que cette invisibilisation médiatique correspond aussi à un manque d'investissement politique et peut-être à un manque de volonté politique?
Vous savez, pour dire les choses, les quartiers sont vus avec des catégories. Alors, catégorie, c'est un grand mot en sociologie, mais qui veut dire des lunettes. Bon, vous prenez des lunettes et vous regardez les quartiers. Et donc, les quartiers populaires sont vus à travers un certain nombre de catégories, du type la délinquance, le chômage, etc., etc., la drogue, voilà. Bon, on les voit comme ça. Et on ne veut pas les voir autrement. Ça fait 40 ans qu'on les voit avec les mêmes catégories. Or, ce qui est en train de se passer dans les quartiers, et ce qui se passe depuis déjà un certain temps, c'est plutôt tout le contraire. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Des besoins, des envies de créer, des chefs d'entreprise qui émergent, qui s'émancipent, etc., etc. La culture, aujourd'hui, des quartiers populaires est en train de devenir mainstream. Tout le monde, voilà, tout le monde écoute du rap, tout le monde veut s'habiller comme les enfants des quartiers populaires. Donc il y a une vraie créativité qui vient des quartiers populaires et qui est pas du tout, et on a du mal encore à voir les quartiers populaires de cette façon-là. Bon, après, sur l'aspect, il y a pour nuancer ce que je viens de dire, il y a quand même il faut changer de modèle entrepreneurial. C'est vrai qu'il y a une surreprésentation du commerce, il y a une surreprésentation des micro-entrepreneurs. 40%, je crois, près de 40% des créations d'entreprises dans les quartiers populaires sont des micro-entrepreneurs. C'est-à-dire, en gros, généralement les Uber, les etc., etc. Ça, c'est des modèles entrepreneuriaux. Bon, ça tient un temps, mais c'est pas viable, c'est pas pérenne. Il faut absolument, voilà. Donc, surreprésentation du commerce, c'est-à-dire boulangerie, vous savez, les sandwicheries, etc., etc. Je pense qu'on arrive à une forme de saturation du marché sur ces différents plans. Il faut donc basculer vers autre chose. Je pense que les réseaux sociaux vont permettre de créer de nouvelles formes de modèles entrepreneuriaux grâce aux plateformes numériques, grâce aussi au fait que ça va permettre aussi de sortir du quartier. Hein, Internet, les réseaux sociaux, c'est une dimension internationale, en tout cas beaucoup plus large que uniquement le marché saturé du quartier. Donc voilà. Donc je dirais ça aussi. Je dirais qu'il faut. Bon, on arrive à un moment où je pense qu'il faut que ça bascule vers d'autres types de modèles, valoriser d'autres types de modèles entrepreneuriaux.
Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, il y a effectivement une surreprésentation dans certaines catégories et une quasi absence, dans certains secteurs. Je pense notamment à la tech. Mais aussi à l'impact, ce qu'on appelle l'impact, c'est en gros tout ce qui est social business. Pourquoi ? Parce que on a dans ces métiers, dans ces secteurs, pardon, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, déjà un niveau de diplôme qui est plus élevé que la moyenne. On est minimum sur du bac plus 5. Parce que quand on parle de tech, on parle de biotech, on parle de, je sais pas moi, de blockchain, on va parler de numérique en général, mais avec des startups qui sont très pointues, en fait. Et pour ça, à un moment donné, vous pouvez pas juste vous baser sur la détermination et vous pouvez pas rattraper ça avec une formation. C'est quelque chose qui... Voilà. Donc, il y a ça. Et pareil sur ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, avec toutes les nouvelles startups qui sont en train d'émerger à impact, où on va essayer de fabriquer des chaises avec... Je fais un peu le cliché, hein, mais fabriquer des chaises avec des capsules de bouteilles d'eau, et donc ça aussi il faut quand même des masters voire des doctorats, hein. On a une surreprésentation des docteurs dans ces startups, et donc en fait du coup le problème, c'est que on peut partir du constat en disant il y a pas assez de diversité dans la tech, il y a pas de diversité mais en fait le problème, c'est qu'il faut le traiter 10 ans 15 ans avant, dans l'orientation, dans l'ouverture des champs des possibles. On peut pas constamment se dire il y a pas assez de diversité, il y a pas assez de gens des quartiers dans tel et tel secteur, alors sans réfléchir à l'éducation et à l'enseignement supérieur et à la formation. Donc ça, c'est mon premier point. Et deuxième point, il y a un vrai sujet aussi culturel dans le milieu de la tech. Emily Chang, de Bloomberg, qui disait qu'il y avait une bro-culture C'est-à-dire bro, brother, frérot, une culture des frérots.
La culture de la fraternité.
Exactement, des fraternités qui a été très largement inspirée par les États-Unis, notamment les fraternités dans les grandes écoles les plus élitistes aux US, qui en fait s'est complètement diffusée dans les grandes écoles ici françaises. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours assez... assez divers et j'ai accédé à une grande école à la fin et j'ai vu autour de moi notamment cette broculture avec des personnes qui c'est normal c'est-à-dire qu'à un moment donné l'être humain a tendance à on appelle les copains il y a l'entre-soi est naturel mais il revient à la puissance publique mais aussi aux grandes entreprises notamment de mettre en place des mécanismes pour objectiver les choses et permettre de générer un maximum de diversité dans ces milieux-là.
Il faudrait agir 10 ou 15 ans avant la création de l'entreprise.
Oui, c'est un problème global qui commence en fait, dès l'école, dès la maternelle.
Merci beaucoup, Ayat. Merci beaucoup, Hicham.
Merci.
C'est la fin de cet épisode de Quartier Direct. Je vous donne rendez-vous sur les sites de Mediapart et du Bondi Blog.